Bonsoir à tous.
Avec Elias.
Salut à vous.
Avec Pierre.
Bonsoir à tous.
Et je crois qu'il y a Mili qui va nous rejoindre juste après. On va parler d'abord Ligue 1, ensuite on va faire de la Liga, de la Liga Sagres, de la Bundesliga et de la Serie A. Donc on va commencer par la Ligue 1. Il y a eu quelques matchs à 17h aujourd'hui. Il y a eu tout d'abord un Monaco qui a affronté. Qui va affronter Monaco c'est pas très bien.
Sochaux.
Monaco Sochaux. Ça s'est terminé par un 1-1. Alors vas-y, dis-moi ce que t'as pensé du match aujourd'hui.
Ouais, bah Monaco Sochaux. Donc le contexte un peu. Donc c'était à Louis II. Monaco qui restait sur deux victoires, fait assez rare quand même sous l'ère Ricardo, donc fallait le signaler. La composition des équipes, on avait le petit Thuram dans les buts, donc qui remplaçait le gardien titulaire Ruffier, donc pour blessure. Donc première titularisation professionnelle donc de Thuram. Ensuite, on avait une défense centrale Simic Adriano, à gauche Koufré, à droite Modesto. Ensuite, à la récupération, on avait Gosso et Pokrivac. Sur l'aile gauche, donc on avait Kamel Meriem, à droite Alonso, en attaque, deux attaquants, Likata et Park. Donc un début de match assez difficile pour l'AS Monaco, qui est vite mis en difficulté et qui encaisse déjà un but dès la 9e minute, donc par l'intermédiaire de Santos sur une erreur de Modesto. Donc la défense de Monaco qui se montre très fébrile en début de match et puis qui est même toute proche et bien d'encaisser un second but donc à la 11e minute avec Pito qui est tout proche de tromper une nouvelle fois Thuram. Et puis finalement petit à petit on a un Monaco qui se met en place, qui retrouve un peu son allant des deux derniers matchs et notamment du match contre Le Mans et qui va finalement s'approprier la possession de balle et puis sous l'impulsion d'un Kamel Meriem très en verve sur cette première mi-temps, donc c'est à signaler un Kamel Meriem qui depuis le début de la saison est assez décevant depuis qu'il est à Monaco, malheureusement il est un peu miné par les blessures. Et puis un Kamel Meriem qui finalement va délivrer un centre qui va être contré par un défenseur socialien et finalement on a Alonso qui est là pour reprendre et qui égalise à la 20e minute, donc un but partout. Et puis après, plus rien véritablement. Monaco a le ballon, mais on a des Sochaliens qui sont un peu tous regroupés derrière. Faut dire qu'avec leur classement, je crois qu'ils sont 18e avant ce match-là, donc ils jouent tous un peu regroupés derrière, surtout à l'extérieur. Et ils font pas mal de fautes, donc ça fait un faux rythme, mais ça fait un match assez pourri, fallait le dire hein, quand même en cette fin de première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, on a vu un Monaco qui a pas mal souffert. Donc qui s'est juste signalé par un coup franc supersonique de Pokrivac à la Taitaiwo, ça dira sûrement quelque chose à Marvolo, CF OM Rennes en 2005 je crois en demi-finale de la Coupe de France. Et puis finalement c'est quand même Thuram qui va un peu sauver Monaco, notamment sur une frappe de Pito à la 54e minute. Thuram qui réalise une très belle parade. Et puis à la 90e, Thuram qui dévie également sur la barre une frappe de Pito encore. Pito qui a été très très fort, très très en jambes ce soir donc du côté socialien. Et puis le fait du match c'est quoi? Eh bien c'est en fait à la 91e minute sur le corner qui suit justement... genre 30 secondes après la frappe détournée sur le poteau de Pito par Thuram, et bien sur le corner, et bien on a Priva qui met une tête dans le but, donc qui inscrit le but. Donc il est tout content et tout, il va au poteau de corner, et puis finalement, non, but refusé pour Sochaux en toute fin de match. Et donc on en reste là un partout, donc forcément les Sochaliens qui créent au scandale. On a la déclat de Francis Gillot, l'entraîneur de Sochaux, qui dit « Ouais, si je commence à reparler de l'arbitrage, je vais encore prendre 3 matchs de suspension. » À noter qu'il avait été suspendu justement pour avoir, je crois qu'il s'était un peu frité avec un arbitre pendant un match, donc il avait pris des matchs de suspension. Après, Gillot qui dit « On nous dit qu'on est parano, nous les entraîneurs, mais après ce que j'ai vu, je me demande ce que je peux dire de plus. Entre Valenciennes et ici, on devrait avoir 4 points de plus. » Donc voilà, toujours ces petits problèmes de l'arbitrage. Et finalement, ce qu'on peut en retirer du côté monégasque, eh bien, c'est que Monaco est peut-être heureux de ce point. Et on voit bien que après la petite embellie, on va dire, des deux derniers matchs, et les deux derniers matchs donc, qui s'étaient conclus par une victoire pour Monaco, et ce soir, cet après-midi, en cette fin d'après-midi, on n'a pas vu du grand spectacle, et on ne peut pas dire qu'il y ait une continuité dans les performances de Monaco, et on ne peut pas dire surtout dans le jeu affiché par Monaco, et c'est assez décevant, et ça laisse présager rien d'exceptionnel du côté de la Turbie et du Rocher. Voilà, donc s'il y en a qui ont des questions, si Nil Orion veut bien se réveiller, peut-être.
Ouais, c'est quand même dommage que Monaco était quand même sur une bonne série. Il se stoppe là, et puis dans le jeu, ça n'a vraiment pas été ça. Franchement, c'est chaud que ce soit dans le jeu, dans les faits de match, et encore avec ce but refusé vraiment bizarre en fin de match, ils auraient franchement peut-être mérité la victoire. Sochaux, franchement, ils ont des synonymes d'espérance parce qu'ils sont très mal classés, mais on voit qu'ils ont quand même des bons joueurs et qu'ils peuvent remonter. Il faut quand même noter aussi qu'il y a eu Dalmat qui est vite sorti du match. C'est lui qui fait une très belle passe décisive sur le but de Santos. Donc ça aussi, ça a pas participé au bon match de Sochaux. Donc c'est dommage.
Pour Sochaux. Concernant Monaco, c'est clair que moi je le sentais un peu, tu vois, les deux matchs, la victoire sur Le Mans, c'est 3 buts en 5 minutes. Donc on peut dire c'est en quelque sorte entre guillemets un ultra réalisme. Après il y a pas vraiment de jeu qui se met en place du côté de Monaco. On n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose de solide qui se met en place du côté de Monaco. On a une paire de récupérateurs Gossopo-Krivac qui prend ses marques, mais on a des ailiers genre Kamel Meriem. Ce soir il fait un très bon match, mais il peut très bien nous faire des mauvais matchs les matchs suivants. Il est assez ses performances fluctuent au gré des matchs. On a un Alonso qui ce soir marque un but, mais qui ces dernières saisons s'est signalé par son inefficacité au niveau du secteur offensif. Donc on a quand même des petits trucs, des petits signaux quand même, et la contre-performance de ce soir, parce que le match nul, même si il est heureux du côté monégasque, on peut parler de contre-performance, de faire match nul à domicile contre le 18e. Ça montre bien que Monaco est à sa place. Je crois que Monaco ce soir, si je dis pas de bêtises, je sais plus combien ils sont, mais ils ont 23 points. Ils sont 10e avec 23 points. C'est une équipe de milieu de tableau de Ligue 1. Et puis Sochaux, peut-être proche de la L2, en tout cas, qui décolle pas. Je crois que Sochaux, ils sont 18e avec 12 points. Ils ont 4 points de retard, je crois, sur 17e. Donc, ça commence à faire un petit écart. Sochaux, ils sont mal partis. C'est clair qu'avec les erreurs d'arbitrage, ça les aide pas trop. Et je comprends que Francis Gillot, ce soir, il puisse avoir les boules.
Alors, là, en match avancé à 17h, il y avait aussi un Lorient-Nancy. Le score, ça a été 1-0. De toute façon, ça a été un peu le cas pour tous les matchs. Ça n'a vraiment pas été des super matchs. De toute façon, dans tous les matchs de Nancy, de toute façon, on est habitué à avoir des matchs vraiment pas super. Celui-là, il a pas. Ça a peut-être une exception qui confirme la règle. Il y a une Nancy qui est restée dans sa moitié de camp pendant tout le match, qui a essayé de défendre, qui laisse Zerka en pointe et qui attend que Agui fasse un miracle. Alors, c'est Lorient qui a dominé pendant tout le match. Ça a été vraiment, vraiment un match très monotone. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et ils sont aussi assez bien à la 85e minute. Vraiment, Nancy, c'est vraiment une équipe que personnellement j'ai vraiment du mal à supporter. Ils pourrissent vraiment tous les matchs. Ils jouent à 10 derrière à chaque match. Alors franchement, ils ont des joueurs qui pourraient jouer assez offensif. Il y a des équipes qui n'ont pas un aussi bel effectif et qui essayent quand même de faire le jeu. Ils ont Lorient qui, par exemple, en face, malgré qu'ils ont un défi qui soit pas beaucoup plus, fringant, ils essayent de faire quelque chose. Nancy justement cette année ça leur réussit pas. L'année dernière ils avaient réussi à faire une super saison en jouant comme ça, super défensif, en tuant les matchs, en endormant l'équipe adverse, mais cette année ça marche pas. Ils sont très irréguliers et ils sont très mal placés, et alors là cette défaite va pas les rassurer, alors que Lorient restait déjà sur 3 ou 4 matchs sans défaite. Là ils gagnent encore 3 points et remontent au classement. Ils sont franchement de la ligne de la zone rouge, donc c'est bien pour eux. Il reste toujours une équipe du milieu de tableau. Et franchement, c'est pas un match qui restera dans les annales, comme beaucoup de matchs de Nancy. Quoi. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire.
Marvo, t'avais
une... Moi, en fait, j'ai une petite... Ouais, c'est ça, c'est par rapport à Nancy. Tu disais que c'est une équipe, c'est les matchs. Je sais pas si j'ai lu un peu les déclarations d'après-match, après leur match contre le CSK. C'est quand même effrayant de voir que ce soit Pablo Correa ou Zerka... Par rapport que les deux, y compris à ce que le fou, parce que quand tu sors d'un match 4-3, quand tu joues contre une équipe de très bon niveau, parmi les meilleures équipes russes, c'est pas les pires en gros, si je jouais plus une équipe de tanche. Et ils trouvent le moyen de dire que c'est nul, très intéressant. Et Correa avait déclaré en gros qu'il aurait préféré perdre 1-0. Vraiment, c'est. Tu parlais tout à l'heure de Sochaux et de Monaco en parlant d'un match fermé, tout ça, mais Nancy, c'est vraiment l'équipe Ligue 1 par définition.
Ouais, non, ah ouais, mais c'est clair que Nancy, c'est vraiment l'idée du bloc défensif, bloc équipe, etc. Et c'est clair que depuis le début de la saison, bah, Nancy, déjà l'an dernier, en fait, ils avaient fait pas mal de matchs, conclu un 1-0, réalisme opportuniste, ce que j'appelle le réalisme opportuniste. Tu vois, ils marquaient des buts en fin de match, un but par match, et après ils tenaient les matchs. Sauf que là, ils sont un peu minés par les blessures. Et puis t'as un mec genre Hadji, tu vois, il est pas super réaliste cette saison. Il est niveau. T'as un mec comme Gavanon qui est la moitié du temps blessé. Donc en fait, au niveau offensif, bah il y a plus cet talent offensif. Et ce qui fait que bah ils arrivent pas à planter les buts et que derrière bah ça manque d'imagination, ça manque de créativité, ça manque de technique au milieu du terrain. Donc forcément bah Nancy ça a du mal cette saison. Et avec bah la Coupe d'Europe comme tu en parlais et le match contre le CSK, bah tu vois ça fait les matchs s'accumulent. Et puis ils ont pas mal de blessés aussi, donc bah ça perturbe un peu tout le groupe. Et t'as une sorte de pessimisme permanent qui s'installe. Tu vois tout à l'heure je lisais une déclaration de Brison. Qui disait, ouais, mais parce qu'on lui, justement, lui reprochait le fait que Nancy ferme beaucoup le jeu. Il disait, ouais, mais on s'en est tellement pris des grosses volées au début de la saison qu'on préfère essayer d'assurer au départ. Et puis après, on voit en fonction du match. Mais ça, c'est clair que c'est un peu la mentalité Ligue 1 et c'est clair que c'est un peu déplorable, quoi. Ouais, vas-y.
Par contre, pour Hadji.
Et puis, ouais, Excuse-moi, mais juste par rapport à ce que disait GG, la grande. De nous, pour eux, surtout que cette année ils ne marquent plus sur coup de pied arrêté. Je me rappelle plus, mais je pense que l'an passé c'était 45%, entre 45 et 50% de leurs buts sur coup de pied arrêté. Là ils y arrivent. Ah, ouais,
voilà. Mais c'était Gavanon qui tirait les coups de pied. C'était Gavanon qui tirait les coups de pied.
Par contre, tu parles du manque de réalisme de Hadji, mais si Hadji n'est pas là, je me demanderais qui c'est qui pourrait donner l'éclair parce qu'en attaque, c'est franchement, il n'y a que lui quoi. Ils mettent d'habitude c'est leur attaquant de pointe Fortuné. Voilà, qui fait que travailler, qui est limite même pas un attaquant. Et ils attendent toujours un éclair d'Hadji, mais des fois il le fait. Contre Bordeaux, il met un super but. La dernière main, il a encore mis une super tête. Et ça peut pas marcher à chaque fois. Et pourtant, quand Nancy joue libéré, joue normalement, joue l'offensif, essaie de créer du jeu, souvent ça fait de bons matchs. Pas si mauvais que ça, donc c'est dommage.
Ouais, mais non, mais tu vois, le problème, c'est que pour que un attaquant comme lui, il puisse être efficace, etc., faut encore qu'il ait des ballons. Et c'est bien le problème de Nancy cette année, c'est que, bah, ils arrivent pas à produire de jeu, à avoir justement, un fond de jeu, en quelque sorte. Et donc, bah, forcément, l'attaquant, il est pas mis dans de bonnes dispositions, il doit se dépatouiller tout seul, il perd beaucoup d'énergie, bah, justement, à essayer de se démarquer, à faire des appels, contre-appels, etc. Donc au final, bah, quand il a le ballon, bah, il est plus forcément très lucide pour marquer le but. Mais voilà, Nancy, c'est pas exceptionnel. Et puis après, je voudrais revenir sur Lorient. T'as un mec comme Gamero qui marque encore un but à la troisième minute. Et Gamero, bah, je crois qu'il jouait à Strasbourg l'an dernier, qui s'impose bien à Lorient. Et je pense que c'est un petit jeune bah, qu'on peut suivre pour les saisons à venir et qui est assez intéressant, potentiel intéressant. Et but de Gamero sur une passe de l'infatigable Abriel ce soir. Et Christian Gourcuff bah, qui enchaîne 3 victoires en 4 matchs. Et Lorient, c'est assez rigolo parce que je suis allé voir sur le site de Lorient et ils mettent. Ouais, Lorient est maintenant à 11 points du premier relégable. Donc c'est assez rigolo. Ils résonnent en termes de maintien alors qu'ils pourraient, je pense, voir plus haut au vu de leur performance. Quoi.
Oh bah ça, faut prouver que ça va vite quand même en Ligue 1, et puis sur le banc ils ont aussi, enfin ils ont, en tant que BC ils ont quand même Rafik Saifi qui est pas là, donc ouais ils ont beaucoup de potentiel au niveau équipe. Même à part il y a aussi Amalfitano qui est franchement un bon petit joueur. En défense centrale ils ont Siani qui est, c'est franchement pas le plus mauvais des défenses centrales en Ligue 1, donc il y a vraiment de quoi faire dans cette équipe. Et je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Non, alors, il y a eu un troisième match lors de 17h aujourd'hui, ça a été un Grenoble Auxerre. Ça n'a pas été le plus fanfaron non plus, hein, 0-0. Pas grand chose à dire non plus, on avait Grenoble qui franchement ça s'est bien installé en milieu de tableau. Et 13e aujourd'hui, donc et Auxerre qui lui aussi a réussi à bien s'installer, donc c'était un duel de milieu de tableau quoi, et pas grand chose à dire non plus. Auxerre a un petit peu dominé la première mi-temps, mais c'était pas énorme. Au final, il y a 8 tirs cadrés dans le match. Ça devient désolant, franchement. Et les arbitres pourris, ça a été lors des 3 matchs, il y a eu franchement des erreurs d'arbitrage. 3 matchs, il y a eu combien de buts encore sur les 3 matchs? Ça fait vraiment 3 buts, il me semble. Donc, c'est un peu à l'image de la Ligue 1, quoi, ces 3 matchs. Et vraiment, des matchs pas super à regarder, on s'ennuie vachement. Donc, pas grand chose à dire.
Ouais, puis je crois à signaler, tu parles de Grenoble qui est 13e, mais je crois qu'ils ont quand même 2 matchs en retard, donc je pense que bah voilà, ils sont 13e, mais avec 2 matchs en retard. Quoi.
Pourtant, début de saison, beaucoup voyaient en Grenoble le nouveau Metz, même si moi je voyais pas trop de ressemblance du fait qu'ils ont acheté des joueurs, pas mal de joueurs d'expérience. Ouais, moi je vois pas se maintenir tranquille quoi cette année. Je crois qu'on a fait le tour. Alors ce soir il y avait un match qui franchement a été quand même un peu plus intéressant et Justin Tour s'affiche. Il y a eu Paris-Le Mans à 21h. Alors tu vas me dire ce que t'en as pensé Fabien.
Bah on a vu un Paris ce soir, on va dire, plutôt réaliste avec un Guillaume Moharo qui s'affirme hein, de journée en journée, qui est ce soir meilleur buteur de la Ligue 1. Donc 2 buts ce soir pour Paris, mais un match assez étrange, un match à domicile assez étrange, puisque on a Paris qui ouvre le score, mais après une période de domination quand même assez importante du Mans. Et puis derrière, Paris ouvre le score, derrière ils se relâchent un peu, on a l'impression qu'ils se contentent de ça. Tu vois, ils veulent pas continuer, ils veulent pas enfoncer le clou. Derrière, t'as Le Mans qui égalise. Et puis là, Paris se réveille à nouveau et remet un but par l'intermédiaire de Oaro. Puis après, là, je te fais un résumé en gros de moi ce que j'ai pensé. Après, t'as Paris finalement qui s'est contenté de ce 2-1. Et c'est assez dangereux parce que si Le Mans avait été un peu plus réaliste et puis un peu plus tranchant, je pense que Paris ne s'en serait pas ressorti avec les 3 points de la victoire. Donc, un match plutôt décevant, à mon avis, je pense que c'est un match assez décevant dans le sens où j'avais vu sur les derniers matchs de Paris, notamment face à Manchester City, une équipe qui avait trouvé des automatismes intéressants, notamment au milieu avec un Jérémy Clément qui montait en puissance. Ça combinait bien, il y avait des bonnes actions bien construites, un Peggy Yulundula qui était vraiment bien, d'ailleurs qui a marqué le troisième but, qui a scellé le match en toute fin de match. Donc voilà, on a une équipe de Paris qui ce soir fait le boulot mais sans plus. Et faudra que Paris nous montre d'autres choses, des choses un peu plus attrayantes qu'ils ont déjà montré sur les derniers matchs. Donc voilà, pas grand chose à retirer de positif sur ce match pour moi, pour Paris, si ce n'est que sans très bien jouer, Paris gagne, et c'était pas le cas l'an dernier.
Ouais, notez que Oaro avec son boulet est maintenant seul meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 buts, il me semble. Et ouais, mais c'est quand même Le Mans en face, c'est quand même pas n'importe qui. Franchement, ce soir, j'ai bien aimé aussi le jeu de Le Mans, ils sont venus avec de bonnes intentions et tout. Et Paris, à chaque fois qu'ils mènent, de toute façon, cette année, ils ont souvent réussi à plier, à fermer la baraque et pas laisser passer, quoi. Et c'est là, ça a pas changé, ça a pas dérogé à la règle. Ils ont, à chaque fois qu'ils ont mené, ils ont essayé de défendre et à chaque fois, ils ont réussi à remarquer un but, donc ça s'est bien passé pour eux. Aujourd'hui, là, ils recollent au peloton de tête, ils sont 5e. C'est 1er Lyon, 2e Marseille, 3e Rennes, 4e Bordeaux, 5e Paris. Donc ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas vu ça, donc ils ont quand même une solidité assez criante cette année, donc
C'est quand même du bien de voir ça. C'était du bien de voir Paris aussi haut quand même pour le championnat français. Côté Le Mans, il y a quand même Coutadère qui, moi, est mon petit coup de cœur, qui a encore touché beaucoup de ballons hier soir. Vraiment très complet, il défend bien, il organise super bien le jeu. Et on voit bien que Le Mans, c'est lui le patron, quoi. Il engueule ses apporteurs et ses coéquipiers. C'est à lui qu'on cherche tout le temps. On a Gervinho aussi qui franchement est très très déstabilisant pour les défenseurs adverses. Moi, c'est une équipe que j'aime bien, Le Mans. Je pense que ça pourrait être eux la surprise. La surprise de la Ligue 1, je les verrais bien accrocher l'UEFA. Ouais. Il y a encore des gens qui veulent réagir.
Ouais, bah concernant Le Mans, on ne peut que féliciter une nouvelle fois leur recrutement intéressant, parce que avec tous les départs de Calvé, départs de Romaric, que j'en passe sûrement, j'en oublie sûrement des départs, quoi. Et ben, on se disait, les départs de Bassa également, on se disait que Le Mans allait avoir du mal cette saison. Et puis, on a toujours ce petit Daniel Peu qui nous trouve des perles, Stromstad, Elstad, etc. Et puis, avec une équipe sans joueur avec un nom exceptionnel, ils arrivent toujours à produire un jeu pas mal. Et puis, pas un jeu à la Nancy, 10 derrière. Et voilà, et on défend. Non, Le Mans, c'est mieux que ça, avec des joueurs comme Gervinho qui sont capables de provoquer, Maïga dans l'axe qui est aussi intéressant. Donc ouais, Le Mans, c'est une bonne équipe de Ligue 1, une équipe assez plaisante à voir jouer. Et comme tu le dis, moi je la vois bien en tout cas finir dans la première partie de tableau, quoi.
Ouais, c'est vraiment un des plus beaux jeux pratiqués en Ligue 1. Offensivement, ils sont parmi les plus grosses équipes du championnat. Alors pour un club avec un budget qui fait partie des plus minimes du championnat, franchement, au niveau recrutement, c'est très 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 malin. Donc ouais, moi c'est vraiment un club que j'aime bien et que je pense que cette année pourrait être la surprise du championnat, tout simplement. Je pense qu'on a un peu fait le tour pour la fin de cette journée. A noter que Le Mans termine quand même 9e ce soir, à 24 points, ils sont à 3 points de Toulouse qui est 7e, donc ça reste quand même très serré. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la Ligue 1.
Alors, maintenant qu'on a fini la Ligue 1, je pense qu'on peut passer un peu à la Bundesliga, donc avec un seul représentant ce soir pour la Bundesliga. Je sais pas si tu as des choses à nous dire, Elias, quant à la victoire miraculeuse du Bayern face à Hoffenheim vendredi soir, et si tu peux nous dire un peu les résultats de la journée de championnat.
Déjà, cette victoire, elle n'avait rien de miraculeuse, comme tu le sous-entends. Tu as très bien vu le match, et puis c'est voir que c'était un match équilibré entre les deux équipes, et puis après, l'expérience du Bayern a fait la différence à la fin. Donc ça, c'était le match phare de cette 16e journée de Bundesliga. Donc on avait le Bayern.
Je peux juste te reprendre un peu sur le match. Là, je te dis que c'était un peu miraculeux, une victoire miraculeuse. En tout cas, on peut pas dire que le Bayern a complètement, je dirais entre guillemets, démonté, parce que j'ai pas d'autre mot qui me vient à l'esprit directement, mais a littéralement bousculé l'équipe d'Offenheim, dominé l'équipe d'Offenheim du début à la fin du match. À un moment donné, je crois que c'était de la 55e à la 60e minute, on avait quand même Hoffenheim qui était tout proche du 2-0. Et puis finalement, le Bayern, à l'expérience, on va dire, est revenu avec une frappe tout de même contrée de l'âme. Donc voilà quoi. Moi, je pense que Hoffenheim a montré plus de qualité technique dans l'ensemble que le Bayern. Mais le Bayern, finalement, à la fin, a gagné, on va dire, à l'expérience, avec un Toni qui nous a encore raté une tripotée d'occasions. Et qui finalement, mais on va dire la plus importante, tu vas me dire encore cela, mais je trouve que Hoffenheim n'a pas démérité, et je trouve que c'était important de le signaler, quoi.
Non, Hoffenheim n'a pas démérité, c'est clair. D'ailleurs, ils ne sont pas premiers de la Bundesliga par hasard. Ils ont gagné la plupart de leurs matchs contre les petites équipes, ils accrochent les grosses équipes aussi. Mais le Bayern, je ne vois pas en quoi ils ont été en dessous techniquement. Le Bayern a proposé du bon jeu, ils ont joué offensivement vers l'avant, tout comme Hoffenheim. Donc on a eu un très bon match de Bundesliga avec deux équipes qui jouaient vers l'avant. Et au final, le Bayern a eu quand même un peu plus d'occasions que Hoffenheim, qui était souvent sur coup de pied arrêté, avec je crois trois fois des occasions de la tête de Toni qu'il a raté, comme tu as dit, une fois de Van Buyten. Et puis après que le but de l'âme soit dévié ou pas, ce n'est qu'un détail, surtout quand on sait que le but d'Ibisevic, 7 arbitres sur 10 auraient sifflé faute vu qu'il se sert de son coude contre Odo. Oui.
Ouais, bah, je voulais juste poser une petite question à Marvolo qui nous dit putain, Hoffenheim, c'est vraiment le surcotage du siècle. J'aimerais bah, qu'il nous explique pourquoi il trouve que Hoffenheim c'est surcoté.
Alors, il y a très simplement, quand une équipe comme Hoffenheim monte et qu'on est déjà en train de nous parler d'Hoffenheim comme du futur vainqueur de la Bundesliga, et donc par extension, on peut extrapoler et dire un futur poison en Ligue des Champions, eh bah, ben ça me fait rire parce que. Moi, des équipes comme ça. Alors, on a eu le Rayo Vallecano il y a quelques temps en Espagne. Et comme ils avaient à leur tête une femme, forcément, c'était très marrant. Donc, on en a fait des tonnes. Et puis, voilà, quoi. Hoffenheim, je suis désolé. Hoffenheim, ça bat des équipes en... Ça bat des petites équipes. On a bien vu que le Bayern, même qui ne joue pas à son meilleur niveau, réussit à les battre. Je pense que Neil Orion sera d'accord avec moi pour dire que ce n'était pas leur meilleur match de l'année. Et pourtant, ils ont trouvé le moyen de les battre, hein.
Ouais, ben non, en fait, je suis désolé, mais le Bayern, au contraire, c'était un de ses meilleurs matchs. On peut remarquer que le Bayern est dans une excellente spirale dernièrement et que Hoffenheim, vraiment, tu ne dois pas les sous-estimer. Moi, j'ai vu plusieurs matchs de cette équipe et ils jouent sans conteste le meilleur football de Bundesliga. Ils ont une équipe hyper talentueuse avec des joueurs très doués qui ont un potentiel de fou et qui pourront devenir très bons. Je ne dis pas qu'ils auront de bons résultats en Ligue des Champions prochainement, etc., mais ils ont largement les moyens d'accrocher l'UEFA. Ils sont bien meilleurs que beaucoup d'équipes qui font de choses pas mal. Par exemple, le Werder Bremen, Hambourg ou Schalke, qui sont largement meilleurs que ces équipes. Et ils ont le potentiel pour devenir un sérieux prétendant dans les prochaines années, pas dans l'immédiat, pour rivaliser avec le Bayern pour la course au titre en Bundesliga.
Ben, si tu veux, moi je vois ce que tu dis un peu comme une concession, parce qu'on n'en a pas discuté vertement. Dans mon sens, parce que tu dis bien que cette équipe peut devenir dans les prochaines années. Donc on est bien d'accord que tu penses pas vraiment toi non plus que Hoffenheim peut gagner le titre cette année. Alors moi honnêtement, une équipe avec un, même si on est d'accord que dans le football c'est pas que les noms qui comptent, mais un coach Carlos Eduardo, Obasi, Dembaba, Ibić, franchement c'est pas ça qui me ferait vraiment peur. Et puis deuxièmement, ça par contre on en a déjà plus parlé. On a pu voir déjà lors des dernières années des chocs où, par exemple, des petites équipes françaises réussissaient à battre d'assez grosses équipes allemandes. Est-ce que c'est dû un peu à la... On va pas rentrer dans des détails trop tactiques ce soir, mais c'est dû justement au fait qu'en Allemagne, c'est plutôt des tractions avant, quand en France, c'est des tractions arrière, si tu veux. Donc, en gros, ils ont peut-être de meilleurs défenses. Indéniablement, les équipes de Bundesliga ont de meilleures attaques. Et malheureusement... Il y a une expression qui se dit ici en Espagne et qui, à mon sens, est très vraie, c'est que les attaquants te font gagner un match, mais les défenses te font gagner des titres.
C'est beau. Oui, bon, c'est une expression qu'on a aussi en Allemagne, mais je ne pense pas. En fait, c'est un projet qui se construit sur la durée. Hoffenheim, déjà il y a quelques années, quand ils étaient en Ligue régionale, ils avaient déjà des structures de clubs supérieures à celles de la plupart des clubs de Bundesliga, avec des centres d'entraînement de très haut niveau, etc. Et une politique de recrutement avec des scouts excellents qui vont chercher les jeunes talents sur lesquels sont également les autres grands clubs, comme Carlos Eduardo. Il y avait beaucoup de grands clubs européens qui étaient dessus, mais finalement, il est venu à Hoffenheim. Oui, tu voulais réagir, Habib ?
Ouais, en fait, j'avais une question, et puis là, tu m'en as donné une deuxième, en fait. Alors déjà, pardonne-moi mon manque de culture sur Hoffenheim, mais moi, sur les rares résumés, enfin, les petits reportages que j'ai pu voir, donc que ce soit à la télé espagnole ou française, eh ben, j'avais vu qu'Hoffenheim, justement, leur gros souci, c'est qu'ils n'avaient pas d'infrastructure de qualité. Et toi, tu me dis le contraire. Je sais qu'ils ont apparemment un nouveau stade en construction ou quelque chose comme ça, donc j'aimerais bien que tu m'éclaires un peu là-dessus.
Non, justement, ce qui leur manquait, c'était un stade. Ils n'avaient pas de stade, ils avaient juste un très petit stade qui n'est pas valable pour la Bundesliga, qui était à peine valable pour la deuxième Bundesliga. Mais pour ce qui est des structures d'entraînement, etc., ils sont vraiment au top en Allemagne. Juste derrière le Bayern qui vient de rénover ses structures cette année-là. Mais vraiment, Hoffenheim, ça fait maintenant plusieurs années que Dietmar Hopp investit, etc. Et je peux t'assurer que leurs structures sont parmi les meilleures en Allemagne. Et puis, les structures en Allemagne sont plutôt bonnes, comme on le sait.
Bah, merci de nous le dire, parce que je pense que si on suit un peu ce qui se dit dans les médias, on entend J'ai dit que si merci de nous écrire, parce que par rapport à ce qu'on peut entendre, Hoffenheim il s'entraîne là-dessus. Donc effectivement c'est pas le cas. Par contre la deuxième, tu as dit un autre truc qui m'a laissé un peu perplexe, je dis que Karl Ward est passé par les plus grands clubs européens. Qui, sans vouloir être trop sarcastique.
Ben il y avait par exemple l'AC Milan qui était dessus, donc je pense que l'AC Milan c'est un des plus grands clubs européens.
J'avais entendu ça.
Ah, moi j'avais vu la rumeur, j'avais vu l'AC Milan et quelques clubs anglais comme d'habitude bien sûr.
Mais bon. Moi j'avais une question, Nilorion, au-delà de l'argent du président de Hoffenheim, c'est faut saluer aussi l'entraîneur, quoi. J'ai lu un article récemment sur lui. Voilà, c'est pas n'importe qui. Il s'inspire de Sacchi. Bon, ça, c'est, voilà, juste pas petite anecdote. Et ça montre que c'est pas juste un coup d'éclat, quoi, que c'est un projet à long terme. C'est pour ça que j'étais pas d'accord avec Marvolo, moi, quand il me disait qu'on surcotait un peu ça. Que t'as bien expliqué, toi également, Nilorion, que c'est pas une génération comme ça qui, en une saison, arrivera à faire un truc et que, donc, justement, il y aura quelque chose derrière, quoi.
Ben effectivement, justement, comme je l'ai dit, c'est un projet à long terme. Il ne faut pas oublier que le projet de cette année de Hoffenheim en Bundesliga, c'est justement le maintien. Ce n'est pas de jouer le titre. Donc le projet de Hoffenheim pour cette année, c'est le maintien. Et ils sont en train de construire une équipe sur les prochaines années avec des contrats pour les joueurs à longue durée, leur permettre d'évoluer, comme tu l'as dit, avec un entraîneur très compétent, qui est un des tout meilleurs tacticiens d'Allemagne, pour devenir une équipe au premier plan en Allemagne dans les prochaines années, et pourquoi pas en Europe, si possible, plus tard.
Oui, non, mais excuse-moi, je vais juste reprendre Billy. Alors, je sais pas si c'est moi qui me suis mal exprimé ou tout compris, mais j'ai jamais dit que cette équipe-là n'avait pas d'objectif à long terme. Je disais juste qu'à court terme, les considérer comme des très probables champions d'Allemagne, c'était les surcotés. Seulement dans cette optique-là, dire que c'est des champions d'Allemagne en puissance. Mais sinon, franchement, je suis pas suffisamment pour pouvoir en parler d'ailleurs.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec leur début de saison, leur première moitié de saison, je veux dire, parce que c'est fini maintenant à un match près, c'est que Hoffenheim va jouer le titre cette saison parce qu'ils jouent le meilleur football, ils jouent mieux que au foot vers l'avant que le Bayer Leverkusen ou le Bayern Munich. Mais s'ils règlent un peu leurs problèmes défensifs, ils vont certainement jouer le titre et puis ils ont autant de points que le Bayern, donc ce sera sûrement un des concurrents les plus sérieux et puis ils vont peut-être même pouvoir accrocher une place en Ligue des Champions, même si je pense que ce serait mieux pour l'équipe d'aller d'abord en UEFA l'année prochaine.
Je voulais juste préciser et confirme Nilorion qu'il n'est pas son premier coup d'éclat, entraîneur d'Hoffenheim qui, il y a une dizaine d'années, l'avait fait monter Ulm, deux montées consécutives en Bundesliga.
Effectivement, bah, Rangnick, c'est, comme je l'ai dit, c'est un des meilleurs tacticiens en Allemagne. Et d'ailleurs, à la fin des années 90, il avait fait un gros coup d'éclat à la télé allemande puisqu'il s'était mis à critiquer le système allemand qui jouait encore avec des libéraux, où il a démontré plus ou moins, je vais dire mathématiquement, les avantages d'un système à quatre défenseurs. Et comme on sait actuellement, c'est ce système qui est en place partout dans le monde. Et on voit que l'Allemagne, avec la Mannschaft notamment, ils ont énormément de retard avec les défenseurs centraux qui ne sont pas au niveau. Donc oui, effectivement, Rangnick, c'est un des meilleurs entraîneurs qu'on puisse avoir en Allemagne.
Pour revenir un peu au Bayern de Munich, enfin, moi je voulais juste donner un peu des nouvelles des petits Frenchies du Bayern. Je crois que Ribéry a une proposition de contrat. Il va sûrement recevoir une proposition de contrat jusqu'en 2011. Et puis on a Agnol qui n'arrive pas à sortir de ses blessures. Et moi je pense sincèrement qu'il ne reviendra jamais au niveau, mais un niveau venable pour jouer avec le Bayern, puisque je crois qu'il va se faire bientôt réopérer du tendon d'Achille. Voilà, Nicolas, si tu veux enchaîner, ouais, vas-y, enchaîner sur ça, puis après sur les autres résultats de Bundesliga.
Bah, Ribéry, déjà, il a un contrat jusqu'en 2011 pour l'instant, puisqu'il a signé pour 4 années quand il est arrivé chez nous. Et puis, pour ce qui est de Willy Sagnol, je dois t'avouer que, comme toi, je ne pense pas qu'il reviendra à son niveau. Je ne pense vraiment même pas qu'il pourra jouer à un niveau correct de gars, puisque à chaque fois qu'il est revenu, ça a été très compliqué, et puis maintenant, cette blessure était encore plus difficile. Oui, pour en revenir aux autres résultats de Bundesliga de cette journée, donc on peut signaler que l'Hertha Berlin, qui était troisième avant cette journée, s'est incliné contre Schalke. Schalke qui a dominé longtemps large la rencontre, qui n'ont laissé, je vais dire, aucune chance à leur adversaire. Bon, comme d'habitude, on a vu les problèmes offensifs de cette équipe, qui ont du mal à concrétiser leurs occasions, avec notamment le très maladroit Kevin Kourani, qui a été sorti à la mi-temps, il est remplacé par Altintop, il me semble. Donc Schalke qui a gagné, puis qui revient maintenant, qui revient à la 7e place du classement, toujours loin de ce qu'ils ont envie d'atteindre, on va dire, puisque c'est une équipe qui vise le titre et la Ligue des Champions. Sinon, pour ce qui est des autres résultats, on a vu l'Eintracht Francfort s'imposer 4-0 contre VfL Bochum. Donc Eintracht Francfort, c'est vraiment une équipe, j'ai envie de dire, très très irrégulière, vu qu'ils viennent de gagner 4-0 contre Bochum, comme je l'ai dit. La semaine dernière, ils se sont inclinés 5-0 contre le Werder. La semaine d'avant, ils avaient gagné 4-0 contre une autre équipe. Et puis, ils s'étaient pris une autre tôle un peu avant. Voilà pour ce qui est de l'Eintracht, qui se situe maintenant, il me semble, à la 11e place du classement. On a vu aussi le Werder Bremen qui a dû jouer contre le Karlsruhe SC, l'Antenne Rouge, avant cette journée en championnat, et qui n'avait pas gagné de match depuis 11 rencontres. Et puis, donc, le Karlsruhe SC qui s'est imposé contre le Werder Bremen dans un match très équilibré entre deux équipes qui aurait mérité un nul. Donc oui, Pierrot, tu voulais réagir sur le Werder?
Oui, je me demande si on n'est pas en train d'assister à la fin du cycle du Werder Bremen comme un grand club allemand. Parce que là, ça fait des années de suite qu'ils sont ridicules en Ligue des Champions. Et puis là, on voit qu'en championnat, ils arrivent même pas à être dans les places européennes. Donc je voulais savoir si tu pensais que le Werder Bremen était en quelque sorte fini.
Je sais pas s'ils sont finis, parce que c'est un effectif qui a quand même de la qualité, avec de bons joueurs comme Pizarro, comme Diego, comme Frings, comme Mertesacker, etc. Mais bon, c'est vrai que par rapport aux dernières années, le Werder n'est plus au niveau, et puis surtout avant, il proposait un jeu offensif de qualité, puis ce n'est vraiment plus le cas. Donc maintenant, c'est une équipe qui n'a plus que les problèmes défensifs qu'ils ont toujours eu, sans pour autant être efficace offensivement, comme ils l'ont été à l'époque. Donc maintenant, le Werder pointe à la 10e place du classement, et je pense qu'ils auront vraiment du mal à accrocher des places européennes pour cette année. Pour ce qui est des autres rencontres, on a eu la victoire à l'extérieur du VfB Stuttgart contre Energie Cottbus, dans un match où Cottbus a eu énormément d'occasions et aurait pu largement remporter la rencontre, mais le VfB a été beaucoup plus efficace, et puis sur les quelques occasions qu'ils ont eues, ils ont réussi à marquer 3 buts, et ce sans leur attaquant phare qui est Mario Gomez. Pour ce qui est du Borussia Dortmund, ils ont eu leur deuxième match nul consécutif et leur quatrième clean sheet de suite contre l'Arminia Bielefeld, dans un match aussi qui était vraiment d'un bon niveau, pas vraiment comme les scores nuls en L1, puisqu'il y a eu beaucoup d'occasions des deux côtés et que le Borussia Dortmund a souvent échoué contre un excellent gardien de l'Arminia Bielefeld, Dennis Eilhoff, le remplaçant de Rowan Fernandez qui est blessé. Et Bielefeld avait également pas mal d'occasions et ont échoué de peu devant le but. Sinon, pour faire plaisir à Dizzy, le Bayer Leverkusen a gagné 3-1 sur le terrain de Gladbach, avec notamment un doublé de son petit chéri Stefan Kiesling et un but de Patrick Helmes, qui en est maintenant à 12 buts en 16 rencontres de championnat. Cependant, on doit signaler qu'il y avait énormément de fautes défensives, j'ai envie de dire, du côté du Bayer Leverkusen, puisque sur les coups de pied arrêtés, ils ont été très très fébriles, et ils peuvent vraiment remercier leur gardien René Adler, qui les a sauvés à maintes reprises de buts de la part de Gladbach. Oui, Fabi?
En fait, je voulais savoir combien il y avait eu de buts ce week-end en Allemagne.
Je peux pas te dire exactement, si tu veux, je peux les compter.
Non mais c'est un peu la spécialité de Dizzy qui non mais si tu veux c'était un petit jeu qu'adore faire Dizzy pour venir toutes les semaines nous dire cette semaine il y a eu 35 buts en Bundesliga, cette semaine il y a eu 48, donc moi je l'attendais parce que cette semaine là je pense pas qu'il y a eu plus de buts en Allemagne qu'en Espagne, mais ça on le verra plus tard.
Ouais non clairement pas puisque je viens de compter puis qu'il y en a eu que 22 et puis c'est le genre de nombre de buts quand on fait merde, on a eu que 22 buts cette journée, c'était pas terrible. Donc pour continuer sur le Bayer Leverkusen, donc ils se sont imposés par 3 buts à 1, mais on peut noter aussi que c'est surtout dû grâce à une énorme performance de René Adler, une fois de plus, qui a dû sortir une demi-douzaine d'excellentes parades, et une très mauvaise performance de la part de l'arbitre, qui a refusé un but plus ou moins évident pour Gladbach, et qui a validé un hors-jeu de Patrick Helmes. Aujourd'hui, on a eu les rencontres du VfL Wolfsburg contre Hanovre. Donc, le VfL Wolfsburg qui avait remporté dans la semaine son match contre Portsmouth grâce à une énième bourde de ce fameux Calamity James et qui montre une fois de plus qu'ils sont la meilleure équipe à domicile en Bundesliga puisqu'ils n'ont eu que des victoires et un seul nul sur leur terrain. Donc, les Loups se sont imposés par le score de 2-1 contre Hanovre, et puis on peut aussi noter l'anecdote que un joueur de champ, Jan Rosenthal, a dû rentrer dans les cages de Hanovre et qu'il a réussi à parer le penalty qui a été tiré par Wolfsburg. Et l'autre match de la journée, c'était entre le RSV FC Köln et le Hamburg SV qui s'est soldé par une victoire de Hambourg, par 2-1 avec un doublé de Petrich et un but de Novakovic pour Köln dans les dernières minutes de jeu. Pour ce qui est du classement de la Bundesliga, on a maintenant Hoffenheim et Bayern Munich qui sont à égalité de points avec 34 points. Hoffenheim est toujours premier avec une meilleure différence de but puisqu'ils sont à plus 19 et le Bayern à plus 15. Donc peut-être qu'ils vont être champions d'automne, ça dépend du dernier match où ils devront recevoir Schalke alors que le Bayern se déplacera à Stuttgart. En troisième position, on a le retour maintenant du Bayer Leverkusen qui pointe à 31 points. Et les autres places européennes sont occupées par le Hertha Berlin et le Hamburger SV avec 30 points. On note qu'il y a un petit gouffre de 4 points pour les prochaines places puisque c'est le VfL Wolfsburg qui est à la sixième place avec 26 points. La lanterne rouge du classement est à nouveau et pour la cinquième fois Gladbach. Et les autres relégables sont Energie Cottbus et le VfL Bochum. Le Karlsruhe SC, grâce à cette victoire contre le Werder Bremen, est sorti des zones relégables et 15e au classement. Voilà, donc c'était tout ce qu'il y avait à dire pour la Bundesliga pour cette journée.
Ouais, je pense que vu qu'on a fini sur la Bundesliga, on va pouvoir enchaîner bien sûr la Serie A. Donc avec Billy qui va nous parler de cette journée de Serie A. Vas-y Billy, c'est à toi.
Ouais. Bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Il y avait je vais juste revenir rapidement sur le score de l'Inter qui jouait hier soir avant tout le monde et qui l'a emporté 3-0 sur le terrain de la Lazio et qui confirme. En fait, il y a pour résumer un peu la sensation que l'on avait il y a encore quelques semaines en Serie A, on pensait que l'Inter était beaucoup plus prenable que les saisons précédentes. On s'est assez trompé. On a retour de l'Inter bulldozer, ça change pas beaucoup des saisons précédentes. On a peur que ça tue un peu le championnat en avance. Je rappelle que la semaine prochaine c'est la Juve reçoit le Milan et qui sont les deux adversaires principaux de l'Inter pour le titre. Ils sont à 6 points pour le moment. Et pendant ce temps-là, l'Inter recevra le Chievo Vérone, qui est la lanterne rouge du championnat. Donc forte probabilité que l'Inter soit à plus 9 points. D'un des deux adversaires et que même pas à la mi-saison, un des deux adversaires soit limite hors course pour le Scudetto. Et l'Inter s'est imposé tranquillement hier contre la Lazio et il fallait voir cet après-midi comment réagissaient Milan et la Juve. Alors le Milan recevait Catania avec une perte blessée, pas de Ronaldinho, pas de Zeidorf, pas d'Ambrosini, pas de Pirlo, pas de Bonera. La formation, c'était à peu près ce qui restait pour Ancelotti. On avait Kaka devant en soutien de Shevchenko et pas une petite victoire avec un petit match d'un petit Milan en ce moment, de toute façon. 1-0 sur une tête de Kaka déviée, une déviation décisive de Stovini, le défenseur. sur un corner. Et voilà, ça suffit au Milan d'emporter 1-0, qui en plus peut s'estimer heureux, puisqu'il y avait un penalty quand même assez évident de Kaladze à la toute dernière seconde de jeu, une main dans la surface. Et donc petite victoire 1-0, Milan qui avait une série de 5 matchs, là, qui vient de jouer 5 matchs contre Lecce, le Chievo, Torino, Palermo et Catania, 5 matchs très abordables. Et le bilan sur 15 points possibles, il est de 8, tout simplement. Alors que les 4 prochains matchs du Milan, j'annonce, c'est la Juve, l'Udinese, la Roma et la Fiorentina, pour qu'on conclure les matchs allés. Donc voilà, grosse pression sur les épaules du Milan, qui risque de se retrouver à la fin des matchs allés à une distance assez importante de l'Inter, qui a déjà joué tous ces gros matchs. Donc petit match du Milan, petite forme. Hein, ils n'avaient pas gagné depuis 4 matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont été éliminés mercredi soir en Coupe d'Italie à domicile. Ils sont battus par la Lazio 2-1. Voilà, et je voulais rapidement revenir sur la performance de Shevchenko, qui est toujours plus méconnaissable. Moi, il me rappelle, ça va pas faire plaisir à Marvolo, mais il me rappelle le Ricardo Oliveira qu'on a vu au Milan il y a 2 saisons, c'est-à-dire il fait jamais le bon choix. S'il doit tirer, il passe. S'il doit passer, il tire. Et puis il loupe souvent ce qu'il entreprend. C'est un peu triste. Voilà. Le constat est triste, et puis là il avait vraiment l'occasion de se montrer, et une fois de plus il n'a pas saisi sa chance. Un autre joueur qui est assez décevant du côté de San Siro, c'est Mathieu Flamini, qui par rapport à ce qu'on annonçait s'intègre difficilement, joue pas mal, souvent titulaire, mais voilà, des performances très moyenne, et puis il a toujours pas compris que la première ligue c'était fini, que c'était en Serie A. Alors on le voit souvent, il est souvent l'auteur de tacles assez assassins, et bref, il s'est pas encore adapté. Donc voilà, on va attendre encore quelques temps. Voilà, important aussi, Gattuso sera suspendu pour le match contre la Juve, et vu que l'ami Marvolo a disparu, je vais parler rapidement de la Juve, qui s'est imposée sans Del Piero, qui n'était pas convoqué, 2-1 sur le terrain de Lecce, et une victoire dans la douleur, puisque une victoire décrochée à la 90e minute de jeu. Voilà, Giovinco a ouvert le score sur coup franc, égalisation de Lecce à 5 minutes du coup de sifflet final, et puis la Juve égale à elle-même, qui ne lâche rien, et qui inscrit sur la toute dernière action du match, tête d'Amaori, qui inscrit là lui son 8e but cette saison en championnat, et qui l'emporte 2-1, qui prend les 3 points sur le fil avant de recevoir le Milan. Et la Juve, elle sera, elle, privée de Nicola Legrottari, et voilà, pour le big match dimanche soir prochain. D'autres résultats importants, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter, les gars. Je vais juste revenir sur les poursuivants. Alors en fait, c'est super serré quand même en Italie encore, surtout au milieu de tableau. Par exemple, là, il y a la Roma qui a gagné 1-0 hier soir grâce à un but de Jérémy Menez, son premier but de sa carrière en Italie. La Roma, qui avec un match en retard est 13e avec 20 points, et qui est seulement à 5 points de la 6e place par exemple, et qui se relance très bien et revient doucement mais sûrement dans la zone, dans la première partie de classement. Bon, elle n'y est pas encore, et puis pourra disputer visiblement si ce n'est le Scudetto, au moins la qualification pour la Champions League. Une 4e place qui pour le moment est toujours détenue par Napoli, qui s'est imposé tranquillement 2-0 face à Sienne cet après-midi. Napoli qui était l'une des surprises du début de saison avec l'Udinese, et j'avais dit il y a de ça un mois et demi, 2 mois, que Napoli tiendrait l'Udinese, et non, et je me suis pas trompé, puisque l'Udinese a encore perdu, 5e défaite consécutive, cette fois à l'Atalanta 3-0, et qui se retrouve 10e l'Udinese pour le moment, et voilà, qui devrait rester dans ces eaux là je pense jusqu'à la fin de saison. Petite anecdote, à l'Atalanta, le troisième but du match a été inscrit par Bobo Vieri. Les légendes ne meurent jamais, 35 ans, et il a re-signé à l'Atalanta, 3e passage de sa carrière dans ce club, et 141e but en Serie A de sa carrière. Voilà, il va rester, malgré les blessures, il persévère, c'est très bien. Et donc, il s'offre encore quelques petits matchs comme ça. Et oui, puis il y avait aussi donc la Fiorentina l'emportait 4-1 sur le terrain du Torino avec un doublé de Noh qui rejoint le numéro 2 de 11 buts cette saison au championnat. Et enfin, il y avait le derby ce soir là qui s'est terminé il y a un peu plus d'une heure. Plus d'une heure, pardon, entre le derby de Gênes, un derby d'Italie des plus. On doit recevoir le Genoa et le Genoa emportait 1-0. But de Milito, meilleur buteur de Serie A, avec 12 buts. Et qui n'avait pas gagné de derby en Serie A depuis 1990. Voilà, ça faisait 18 ans. Les voilà désormais 6e championnat. On va attendre l'arrivée de de Marvolo. Voilà, Marvolo, c'était là.
Oui, bien sûr.
Ouais, je viens juste de conclure mon long briefing sur la journée Serie A. Et voilà, et en fait, bah, tiens, t'arrives au bon moment. Le Juve et Milan qui se présente dimanche prochain sera un peu le match pour savoir qui sera l'anti-Inter, qui sera l'adversaire. C'est un peu un match à élimination. Bon, ils ont le même nombre de points, quoi. Mais ça en permettra de savoir plus sur quelle est l'équipe la mieux armée pour empêcher l'Inter de remporter un 4e scudetto consécutif. Qu'en penses-tu?
Plutôt que l'anti-Inter, moi je vois malheureusement le faire valoir de l'Inter, parce que quand on les voit battre aussi facilement la Lazio, c'est pas franchement encourageant pour la suite. Et puis Del Piero, il est blessé, donc je sais pas s'il jouera contre Milan, et même s'il joue, il sera pas à son meilleur niveau, donc c'est un peu inquiétant. Même si, bon, faut dire qu'aujourd'hui Jovico, il a fait un très beau match, moi j'ai assez apprécié. Il a marqué un but à la Del Piero d'ailleurs.
Joli coup franc.
Ouais, mais malheureusement, comme souvent, moi je vois un match assez terne entre les deux équipes.
C'est les Juve et Milan, généralement, c'est pas le genre de match où on s'amuse, quoi. Généralement.
Même si c'est un con, parce qu'il m'est arrivé de voir des Juve Milan avec pas mal de buts, mais chiant. Donc, c'est vous dire un peu.
C'est juste.
Le genre de match. Mais bon, à mon avis, ça va être assez ennuyant. Et même si moi, je pense que ça n'étonnera personne, moi, ce jour-là, c'est un autre match que je vais regarder.
Ce sera.
Bah, il joue bien samedi, non?
Non, dimanche.
Dimanche, il y a aussi de très beaux matchs en Espagne, mais bon, on en reviendra plus tard, comme toujours.
Ouais, il y avait une question de Neil Orion sur l'Atalanta.
Effectivement, je voulais te demander à quoi pouvait prétendre l'Atalanta avec Bobo Bieri cette année. Est-ce qu'ils ont l'ambition?
Bah, comme d'hab, c'est une équipe qui cherche à se faire, avant tout. Et malheureusement, en fait, sur 23 points, il y en a 3 fois 6, 18, 19, mais il y a simplement 19 points qu'on avait pris à domicile. Et c'est une équipe encore très inconstante à l'extérieur. Voilà, bon, pour le moment, avec le classement très serré, ils arrivent à là, pour le moment, ils sont au niveau de l'Intertoto. Mais bon, ils vont se battre avec la Lazio, l'Udinese et Palerme. Et, moi, je dirais milieu tableau et maintien tranquille sans se faire peur. Voilà, je pense que... Mais c'est une très jolie équipe, c'est bien d'en parler. Oui, on a parlé de Vieri, Marvolo, qui a marqué cet après-midi. Qu'en penses-tu?
La dernière fois que je l'ai vu jouer, c'était lors d'un Juve Fiorentina, et il me rappelait plus une momie qu'autre chose, donc pas grand-chose à dire sur ce joueur-là.
Ok, et ben ça c'est fait. Et il y avait Girondin qui voulait poser une question sur la Roma.
Ouais, j'ai vu que Vucinic s'était blessé. Je voulais savoir, est-ce que ça serait une blessure qui serait grave pour empêcher de jouer la Roma?
Visiblement non, quoi. Donc.
C'est quand même un important de l'équipe cette année, non?
Ouais, bien sûr. Enfin, si, tout à fait, quoi. Et effectivement, bah, l'état de santé de la Roma, ça va beaucoup mieux, en tout cas, depuis. Depuis ces dernières semaines, quoi, puisqu'ils avaient une série de blessures, quoi, et là, évidemment, ils ont récupéré leurs joueurs petit à petit. Par exemple, la charnière centrale, Mexès Juan, est en pleine forme en ce moment, ça va être dur de les prendre à défaut. Et puis, Vucinic, je pense que devrait être rétabli, sinon, ce sera Menez le fait qu'il soit débloqué hier soir, peut-être qu'il serait plus à craindre que Vucinic, pourquoi pas. Il y avait une dédicace de Pierrot.
Oui, bah, le nom de l'Atalanta, il est connu pour ma part, puisque Il y a Cosigna dans l'effectif, yes. Donc je voulais saluer ce joueur qui brille par sa présence dans les tribunes à chaque match.
Exactement, mais il me semble aussi qu'il a eu des gros problèmes de physique. Et je sais que l'an dernier il y a eu de ça, quoi. Et sinon, oui, malheureusement, il fait de la figuration et la concurrence est rude également à son poste. Marvolo que... voulait rebondir
sur Costinha. Surtout que tu parles de Costinha qui illumine l'Atalanta par son assiduité dans les tribunes. C'est bien, surtout que ça fait suite à deux années magiques à l'Atletico où tout le monde ne parlera que de lui. Hein.
Oui.
Ah, c'était catastrophique, hein, Costinha.
Deux années magiques Atletico qui faisait suite à une année magique Dynamo Moscou.
En Russie, oui.
En Russie, voilà. Donc il est sur une série de 5 saisons splendides.
Voilà ce qu'on appelle une belle gestion de carrière.
Exactement. C'est dommage, non, sérieux, c'était vraiment un excellent joueur. Et moi, quand j'ai vu arriver à l'Atalanta, j'étais persuadé que. Enfin, j'avais trouvé ça que c'était un joli coup. Un peu comme. C'est différent. Un peu comme le Genoa a su reprendre Thiago Silva. L'ex milieu de terrain du Barça qui s'est parfaitement intégré.
Thiago Motta,
excuse-moi, oui, je suis désolé. Si on n'arrête pas de parler Thiago Silva au Milan AC, le défenseur brésilien, je faisais un petit mélange. Et voilà, ouais, et qui l'a pris gratuitement et comment dire, oui, qui a fait un joli coup ce soir. Je crois qu'il jouait durant le derby et voilà, il s'est parfaitement intégré, quoi. Il a pris direct la place de titulaire et en plus il est encore jeune, il doit avoir 24-25 ans, quoi. Et bien fouiné, ils ont bien fouiné les dirigeants du Genoa sur ce coup-là. Je voudrais savoir, vu que t'es là, Marvolo, quoi, avant peut-être de conclure, ce que tu penses du fait que Diego Milito, parce qu'on en parlait souvent en Italie, soit pour le moment, enfin bon, il n'y a pas eu trop d'occasion, mais boudé par le sélectionneur argentin ou par la sélection argentine. Alors qu'il est meilleur joueur de Serie A avec 12 buts.
Oui, il est boudé, oui et non. Moi, ça n'engage que moi, je prendrai Milito parce que ça change un petit peu des petits formats argentins du moment. Mais je pense que c'est pas vraiment qu'il soit boudé, c'est juste que lors du dernier match, il a essayé un petit peu, enfin lors de son investiture, il a essayé de prendre un peu les cadres du moment, les cadors du moment, et puis il a voulu aussi tester la paire du Napoli, donc German Dennis et Ezequiel Lavezzi. Mais sinon, à mon avis, non, il est pas boudé, je pense qu'il va le prendre, parce que d'ailleurs, il l'avait très bien expliqué dans une de ses interviews, où il avait expliqué, enfin une interview récente, j'ai un petit écho assez désagréable, où il avait bien expliqué qu'en fait, il pouvait pas tous les mettre et qu'il comptait mettre une pointe physique. Donc, à mon avis, quand il dit pointe physique, c'est lui. À mon avis, il n'y a aucun doute là-dessus, ce sera lui qui jouera en équipe nationale.
Ok, surtout qu'il n'y a peut-être plus des masses de joueurs qui ont son profil en sélection argentine, de nos joueurs.
Il y a Crespo.
Ouais, voilà, ouais. Non, c'est ça, j'ai pensé à lui, Crespo, Cruz, quoi. En parlant d'Argentin, je voulais revenir sur Zarate qui a pris un début de saison de Tony Truant. Je crois qu'il a mis un but seulement sur les derniers mois. Alors est-ce qu'on s'est peut-être trop enflammé rapidement, quoi, sur ce joueur qui devait être la nouvelle star de la Serie A? L'avenir nous le dira, quoi, mais...
Si tu veux, je pense qu'il s'est surtout lui-même enflammé trop vite sur lui-même. Ça peut paraître un peu con comme phrase, mais c'est ce qu'on a pu voir lorsqu'il était au Vélez Sarsfield. Il suffisait qu'il aligne 4-5 matchs de très haut niveau et pendant 6 matchs de suite, il va tenter encore et toujours d'éliminer toute la défense à lui tout seul. Tous ceux qui ont pu le voir d'ailleurs en Argentine le diront, malheureusement c'est un gars qui, comme beaucoup d'Argentins, ne lâche pas son ballon du tout, quoi. Et c'est ce qui lui arrive en ce moment, c'est qu'il a moins d'efficacité dans ses dribbles.
Ok, et voilà, je voulais faire un petit parler rapidement avant de passer au classement pour conclure. Ça va intéresser aussi les gens qui sont là sur Marco Di Vaio qui vous avez vu à Monaco qui a pas laissé des souvenirs impérissables il y a 2 ans bientôt 3 et qui est pour le moment 3e meilleur buteur de Serie A avec 9 buts voilà et c'est pour le moment il porte pour le moment sur ses épaules l'équipe de Bologne entraînée par Mihailovic, qui il a marqué 9 des 14 buts de Bologne, il est on fire, il a encore mis un super cet après-midi, quoi. Il a 32 ans, et voilà, il s'offre une seconde jeunesse, quoi. Donc, ça fait plaisir de revoir ce genre de joueur. Ça mange pas de pain. Et pour finir, donc, le classement de la Serie A, donc, rapidement, hein. L'Inter, donc, 36 points, garde ses 6 points d'avance sur un duo composé de la Juve et du Milan, voilà. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de hasard, quoi, de revoir ces trois équipes-là en tête du championnat, alors qu'il y a 2 ans, bientôt 3, il y avait le Calciopoli qui aurait dû révolutionner un peu le foot italien, et finalement, retour à normal, oui, mais c'est parce que on ne peut rien contre la tradition, et voilà, ce sont les 3 meilleures équipes en tête du championnat. Napoli, 4e pour le moment, avec 27 points, donc la place qualificative pour la Champions League, et qui est talonné par la Fiorentina, 26 points, et le Genoa, 25 points. Voilà, dans la zone rouge, on retrouve l'Aegina et deux promus, Bologne avec 11 points, et le Chievo-Vérone, 9 points. Voilà, je rappelle, Juve-Milan, le 14 décembre, dimanche soir, à 20h30, et l'Inter recevra le Chievo un peu plus tôt, à 15h. Voilà, messieurs.
Oui, donc je prends le relais de la Liga Sagres. Donc 11e journée. Donc très prolifique en but comme dans les autres championnats. Hein. Donc 24 buts en 6 matchs. Sachant qu'il reste encore 2 matchs demain, on peut atteindre des sommets. Donc vendredi soir, début de la journée par l'Estrela Amadora qui recevait le Sporting Portugal. Donc avant de revenir plus en détail sur le Sporting Portugal, je vais parler un peu de l'Estrela Amadora. L'Estrela Amadora qui a vu quand même des positifs malgré son statut d'équipe moyenne, puisque avant cette journée elle était 10e classement. Donc on commence par le score qui est de 3-1 pour le Sporting Portugal. Et donc je vais parler de son gardien Nelson, qui est passé par le Sporting par le passé, hein. Donc je parlais de Beto aussi, le gardien de l'Échouange qui était formé au Sporting. On voit qu'il y a beaucoup de bons gardiens qui sont passés au Sporting, et on voit que le titulaire actuel c'est ce que j'appellerais une balle, donc une belle gestion des gardiens au Sporting. Donc oui, voilà, Nelson qui était très bon, hein. Et donc je vais parler de ces deux attaquants de l'Estrela Amadora, Varela qui était au Sporting encore l'année dernière, enfin plus exactement prêté par le Sporting au Recreativo Huelva. Donc il a fait un très bon match, il est très bon techniquement, il faisait des bons appels. Bon, ça a pas souri pour lui, mais l'Estrela Amadora aurait pu obtenir de bonnes choses. Ensuite je vais parler du buteur Anselmo. Donc c'est lui qui a marqué grâce sur une super bourde de Rui Patricio qui a fait une bourde tout simplement. Et Anselmo qui c'est pas un grand joueur, mais c'est un opportuniste, et là il y a une bourde et il en a profité pour marquer. Ensuite je vais parler de ce qui n'est pas allé, puisqu'évidemment le Sporting, une équipe comme le Sporting profite de Sinva, et donc je vais parler de son capitaine et défenseur central Hugo Carrera. Il a manqué d'agressivité, et quand en face de soi on a Elder Postiga, Lietzson et Simon Vukcevic, ça finit avec 3 buts au compteur. Ses dribbles et ses frappes ont été inutiles, hein. Les dribbles prévisibles pour ses coéquipiers, et puis les frappes de loin, dont il est spécialiste, il n'a pas pu en faire puisque Sporting avait eu au grain. Donc le Sporting, donc 4 joueurs qui ont brillé. Rockenbach, une passe décisive, hein, pour ce joueur qui était catalogué comme mauvais depuis son retour au Sporting. Hein, il a fait un centre côté droit pour la tête de Lietzson. Il a fait de très bonnes passes tout au long du match. Donc je vais parler de sa passe décisive pour Lietzson, donc je vais enchaîner sur Lietzson. Qui a marqué à nouveau, c'est Lietzson, c'est le tueur, l'un des tueurs de Liga Sagres. Hein, il est bon de la tête et il est bon techniquement. Il court partout, il fait de nombreux efforts. Il a l'affût du moindre ballon. Il aurait pu marquer un deuxième but qui a été refusé sur une passe en retrait d'Eldar Postiga qui avait passé la ligne du terrain. Donc il n'a pas marqué son deuxième but. Et donc je vais parler d'un autre passeur, c'est João Moutinho. C'est rare pour le souligner, mais il a fait un bon match puisque depuis son statut d'espoir, il tarda à confirmer. Là, vendredi, on a vu un bon match de sa part. Lui aussi a fait une passe décisive. On voit vraiment que c'est un très bon joueur quand il se bouge. Lui aussi, il a de bonnes qualités de passe. Quand il est bon, ça peut être un vrai maître à jouer. Et donc, le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est le grand retour de Simon Vukcevic, qui était écarté depuis de nombreuses semaines. Et donc, il est rentré à 75e minute de jeu. Et donc, pour faire taire son entraîneur estimé, Paulo Bento, il a marqué 2 minutes après son entrée. Donc, voilà. On voit que Paulo Bento avait complètement tort de se passer de ce joueur et que on va voir s'il est relancé. En tout cas, en Ligue des Champions, il pourrait très bien jouer titulaire puisque Lietzson sera absent. Et donc, pour parler de la Ligue des Champions, je vais parler de Rui Patricio puisque grâce à sa bourde, il a gagné le droit de ne pas jouer le prochain match contre le FC Bâle. Il n'a pas été convoqué. Après, je ne saurais pas vous dire qui jouera. Est-ce que ce sera Batista, un jeune gardien portugais, ou on va assister au grand retour de Stojkovic. Stojkovic qui lui aussi est écarté depuis plusieurs semaines. On se demandait s'il allait partir du Sporting ou s'il allait revenir. Là, on va peut-être que s'il joue mardi contre Bâle, il va peut-être enfin monter que Rui Patricio, il vaut rien à côté de ce très bon gardien, même s'il n'a pas laissé un grand souvenir en France au FC Nantes, sur ce qu'il montre avec la Serbie et puis ce qu'il a montré l'an dernier. Je pense vraiment que Rui Patricio, c'est un guignol à côté. Ensuite, deuxième match, là aussi, pas mal de buts, puisque 6. Le National da Madeira battu Benfica 4-2. Donc là, je vais aller un peu plus rapidement vu que c'est pas les grosses équipes du classement. C'était 6e que le dernier. Donc je vais parler de Néné qui était l'homme du match, auteur de 2 buts. 2e meilleur buteur du championnat. 7 buts en 11 matchs. Sinon, pour parler de ce match, je vais dire qu'il y a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage. Notamment en première mi-temps où BNSS pouvait revenir à 2-1 et ça peut être le cas. Ensuite, en deuxième mi-temps, ils se sont réveillés. Ils sont revenus à 2 buts partout. Et là, c'est ensuite que le match est parti en couille. Le National da Madeira a repris l'avantage 3-2, alors que sur la passe, il y avait une main. Donc, ça a mis un peu de temps dans ce match. Et donc, ça aboutit sur une expulsion d'un joueur de BNNCS. Mais bon, c'est un peu anecdotique sur la suite, puisque le National da Madeira va enfoncer le clou en fin de match par Kléber en marquant le 4e but. Ensuite, un autre match que là je vais encore passer encore plus rapidement, tellement il est intéressant. C'était le 13e contre le 12e, l'Académica Coimbra contre le Passos de Ferreira. Victoire de l'Académica Coimbra 2-1. Bon, je m'attendais à un match nul pas très intéressant, mais. Non, le 13e contre le 12e, Marvolo. Tu écoutes pas très bien. Donc oui, je m'attendais à un match nul entre ces deux équipes, mais l'Académica à domicile prend des points et ce sera décisif pour la montée. Pour ne pas descendre, je veux dire. Ensuite, j'ai parlé du FC Porto qui a déroulé 3-0 chez le Vitória Setúbal. Donc je vais faire une dédicace à notre cher membre d'OS, grand fan de Bruno Alves. Bruno Alves qui était vraiment le patron de son équipe. De par sa prestation personnelle, très bon en défense. C'est lui qui a ouvert le score. Ensuite, Christian Rodriguez qui, là, je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur le forum. Il est qualifié de chef, mais moi je tiens à dire qu'il est plutôt pas mal. Il a du jeu, il fait des bons centres. Par exemple, il a mis au supplice son en le dribblant plusieurs fois. Donc, bon, il n'est pas décisif encore, mais je pense vraiment qu'il peut s'imposer à l'avenir FC Porto. Et donc, en parlant de quelqu'un qui s'imposait, je vais parler de Hulk, le grand héros vert qui était pressenti au Paris Saint-Germain et qui est finalement arrivé au FC Porto. Donc, une grande carrure, un grand physique. Et donc, c'est un joueur très rapide, très physique. Et là, depuis son match face au Sporting en Coupe du Portugal, il s'est vraiment posé comme le titulaire à la pointe de l'attaque. Encore hier soir, il était très bon. C'était le meilleur joueur sur le terrain. Il a même résolu son problème de côté perso, qui lâchait pas le ballon. Là, il fait des passes et ça change tout. Hein, le meilleur exemple, c'est la passe décisive qu'il fait pour le deuxième but à Freddy Guarin. Et il aurait été tenté de frapper tout seul, mais finalement il a fait une passe pour son coéquipier démarqué et ça donne le deuxième but. Et donc j'ai un point négatif du côté du FC Porto, c'est Thomas Costa. Raúl Meireles était absent et il n'a pas profité de cette absence pour montrer ses qualités qu'il avait pourtant démontrées en ne jouant pas à son poste plusieurs fois et en faisant plusieurs bonnes rentrées, mais là ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, deux matchs, Rio Ave contre le Naval. Là, une petite surprise, hein, puisque Rio Ave s'est imposé 2-0 alors que je qualifiais Naval comme une bonne équipe. Donc le Rio Ave qui prend 3 points avec son maintien, on va voir s'ils peuvent se maintenir. Et ensuite, le dernier, c'est le Maritimo Funchal, 4e, qui recevait Benfica, 2e.
Ouais. Non, mais là, on sent que tu vas te faire vraiment plaisir. Alors, on écoute attentivement ta chronique sur ton équipe qui a explosé le Maritimo Funchal. Je t'en prie.
Ah oui, donc j'étais très inquiet sur Benfica avant ce match, puisqu'ils n'étaient pas très... Déjà, contre Setúbal, ils ont fait 2-2 à domicile sur une super bombe de Kim. Donc, sachant que le Maritimo était très en forme, j'étais très inquiet. Et donc, pour parler de Kim, justement, Kim n'était pas à ce match, il n'était pas convoqué, puisque il a été récompensé de sa bourde en étant laissé au repos. Et donc, on a vu le premier match depuis 3 ans en championnat du jeune gardien José Moreira, qui a fait son boulot ce soir, et donc qui devrait garder sa place dans les semaines à venir. Et donc, je vais parler effectivement du carton maintenant. Hein. C'est un match qui a commencé doucement au début, un match équilibré. Ensuite, il y a eu cette percée de Suazo qui a obtenu un penalty et l'expulsion de son gardien Marcos. Et là, à 10 contre 11 tout le match, ça a fait très mal. Reyes a transformé le penalty et ensuite, hein, c'est parti tambour battant. Un deuxième but de Suazo à 2-0 à la mi-temps. Et ensuite, 4 buts en deuxième mi-temps, sûrement le relâchement du Maritimo, qui a complètement laissé tomber. Troisième but de Luisao, puis ensuite un deuxième but de Suazo, et pour finir, un doublé de Nuno Gomes. On a vu du foot, hein, pas comme en Ligue 1, et ça, c'est bien. Alors, je vais finir avec le classement, quand même. Donc, avant le match entre les Chouinges et Guimarães, Benfica est en tête. 25 points, donc deuxième Leixões 23 points, troisième Sporting 22 points, Porto quatrième 20 points. Donc les gros sont là, hein. Je vais pas vous faire tout le classement. Hein. Je pense que vous avez compris que les 3 grandes équipes portugaises sont du tableau, Leixões est toujours là. Et donc je vais parler du bas du classement avec les deux relégables, Trofense et Belenenses, avec 7 points. Et le Passos de Ferreira qui n'a que 2 points d'avance et qui n'est donc pas à l'abri.
Et donc, on va conclure par le meilleur championnat du monde, hein, le championnat d'Espagne. Énorme, énorme. 44 buts. 44 buts. Bon, alors, les fans de Nancy, Hoffenheim et Liga Sagres, on se calme. Hein. Là, on parle de vrai football, messieurs. Donc, je disais 44 buts aujourd'hui, enfin ce week-end. Donc, comme vous avez pu l'écouter hier, il y avait 3 matchs au programme hier. Donc, 3 équipes qui jouent la Ligue des Champions. Le Barça qui a explosé, Valence 4-0. Villarreal et Getafe qui sont neutralisés 3 partout. Et l'Atlético Madrid qui allait s'imposer 5-2 sur la pelouse du Sporting Gijón. Donc aujourd'hui, on va y aller comme d'habitude. Donc les résultats rapidement. Betis espagnol qui se neutralise un partout. Mallorca qui perd sur sa pelouse face au Recreativo Huelva. Écoute ça bien, Pierrot. Recreativo Huelva. 3-2. Osasuna et Valladolid qui font match nul 3 partout. Le Deport qui bat Malaga 2-0. Numancia qui bat Almeria 2-1. Et le Racing Santander, l'Athletic Bilbao, qui fait match nul avec l'Athletic Bilbao 1 partout. Mais bien sûr, le match le plus important, c'était donc la réception du Real Madrid. La réception du Sevilla par le Real Madrid. Victoire 4-3 des Sevillans. Grâce notamment à des buts de Romaric, Canute, Renato et Adriano. Pour le Real Madrid, on a eu des buts de Raúl, Gonzalo Higuaín et Gago. Donc, quoi dire de ce match-là ? Énorme, énorme, énorme erreur d'arbitrage en faveur des Sévillans. Penalty à 3 partout, clair, limpide sur une faute sur Gonzalo Higuaín. Et c'est peut-être l'incident du match, c'est que Robben, cet abruti, qui... À mon avis, avec toute l'expérience qu'il a, il est pas assez. Je le pensais pas assez con pour aller protester autant, mais il allait le faire et il se retrouve expulsé. Donc, non seulement il se fait expulser, mais il perd le Classico. Marcelo aussi perd le Classico. Donc, samedi 13 à 22h sur la pelouse du Barça. Autant vous dire qu'une spéciale dédicace à GG. On va la voir son Gabi Ainsé côté gauche. Donc, face à Messi, ça va vite tourner à une démonstration de fist fucking. Mais... je pense qu'il n'y a pas d'autre expression, messieurs. Donc, je m'excuse pour les plus jeunes qui écoutent ça. Mais non, plus sincèrement, même au niveau du match, on a vu quand même un Real Madrid beaucoup plus en jambes avec les retours, donc les gros tours conjugués et de Robben. Et de Gonzalo Higuaín, mais là, défensivement, c'était très très mauvais. Donc, quand on va se déplacer sur la vraie meilleure équipe du monde, et non pas Hoffenheim ou les Schwinges, tout ça, ça va faire vraiment très très mal. J'ai franchement très très peur pour le Real Madrid, d'autant plus que l'actuel... Merci, Lorient, pour tes impressions très... à la hauteur d'Offenheim. Non, mais plus sérieusement, c'était une journée très, très chargée pour les Madrilènes parce que non seulement il y a eu ce match-là, mais il y a eu aussi tout simplement une réunion extraordinaire du Real Madrid. Alors, je vous explique comment ça se passe. Comme vous le savez, le Real Madrid n'appartient à personne. C'est les sociaux qui élisent. Voilà, c'est ça, c'est les sociaux qui élisent le président. Et donc, quand il y a une assemblée extraordinaire, il suffit de prendre son carnet de sociaux. Et on peut tout simplement assister, voilà, sa carte de sociaux. Oui, c'est pas... en Espagne, c'est plutôt des petits carnets.
Ah, moi j'en ai mais une bref. Du Barça, c'était une carte.
Ça dépend si tu parles des cartes pour rentrer, pour voir les matchs, ou si c'est pour plus que c'est pour voter tout ça. Ah, mais bon, de toute façon, on va pas épiloguer là-dessus parce que ça dépend des clubs. Mais donc c'est voilà, il suffit. Oui, oui. D'accord, messieurs. Non, donc plus sérieusement, donc il suffit d'avoir son carnet / livret / carte de sociaux pour pouvoir assister à la réunion. Et donc ça a été énorme, surtout qu'aujourd'hui, on ne parlait absolument pas des trophées sportifs, mais seulement du financier. Et là, une dette colossale du Real Madrid malgré des revenus très largement. Très largement excédentaire cette année. Et donc on a eu droit à des réflexions très simples, de sociaux très simples aussi, très simplés même, si on passe l'expression. Parce que quand on. Il faut les comprendre, quand on quand on a le porte-parole du Real Madrid qui arrive et qui explique que cette année le Real Madrid a 51 millions de bénéfices, donc la question qui arrive très, très simple, c'est où sont les joueurs? Pourquoi on se retrouve avec du Drenthe? Je ne sais pas si vous l'avez vu jouer récemment Drenthe, mais waouh, c'est une honte au football. Hein. Je pensais que la pire arnaque du ciel, c'était Reyes à Benfica.
Il a un petit côté Mario Melchiot, Drenthe, je trouve.
Ouais, mais on va dire que Mario Melchiot, ben il reste, il montait pas trop. Drenthe, c'est son but d'attaquer, donc la petite tignasse. En plus, ça lui donne un petit côté ridicule à la Teletubbies. Et puis, le fait qu'il passe plus de temps par terre que balle au pied, c'est... Franchement, ce joueur-là, c'est horrible. Donc, voilà, c'est... Défaite 4 buts à 3. En plus, face à un Sevilla qui était où ils avaient un Luis Fabiano suspendu. Donc, autant vous dire que c'est quasiment du Sevilla B à partir du moment où Luis Fabiano ne joue pas. Mais autant vous dire que c'est pour la troisième fois que je le dis, mais j'ai très 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 peur pour le Real Madrid samedi prochain. Surtout que le Barça a tout simplement décidé de mettre 8 joueurs sur... enfin, ils n'ont pas convoqué 8 titulaires pour le match du Shakhtar Donetsk, donc champion. Donc pas de Henry, pas de Messi, pas de Xavi, pas de Touré. Donc en gros, ils vont recevoir le Real Madrid qui est déjà 9 points. En ayant laissé quasiment tous leurs titulaires au repos.
Il y a moi, Pierrot qui a une question.
Oui, je me
t'occupe. Ok. Bon.
Ouais, de dire que Reyes à Benfica c'est une arnaque, j'étais un peu dans l'erreur hein, parce que il est vraiment très bon cette saison.
Non, je dis pas que c'est performance, c'est ça, mais plutôt que si tu veux, c'est quand même bizarre qu'on aille chercher un mec comme Reyes. Dans un club comme Benfica, c'est pas quand même pas le dernier des clubs à la con, quoi. C'est quand même un gros club européen. On va chercher un mec qui est pathétique pendant 3 ans ou 4 ans en Espagne. Je veux dire qu'à ce prix-là, ils auraient pu prendre Costinha avec, hein, ou Thiago Motta, mais juste dommage. Et puis d'ailleurs, tiens, ça me revient. Je voulais savoir si toi aussi tu étais au courant il y aurait une sorte d'échange ou de entre 3 clubs, donc le Real Madrid qui prendrait Di Maria. Benfica qui récupérerait un joueur de Getafe, donc soit Juan Angel Albin, soit Soldado, et puis je sais plus quel joueur arriverait donc à Getafe pour compenser. Je voulais savoir si toi tu étais au courant de ça.
Non, parce que les seules rumeurs sur Di Maria, c'est que juste il va rester jusqu'à la fin de la saison.
Donc voilà, encore une fois.
Justement, un départ exclu.
Non mais c'est pour vous dire à quel point le Real Madrid va mal. En ce moment c'est vraiment n'importe quoi, on lit de ces conneries. Et je voulais un petit peu profiter du fait que tu sois là pour savoir. Sinon, ben, comme vous le savez, il y a aussi Michel, le directeur de la Cantera, qui est en train de détruire le club avec sa démission, parce qu'il est en train de montrer les vraies couleurs, si on dit ça comme ça, de Calderon. Parce que ce gars-là, c'est quand même un président, c'est une très belle blague, ce gars-là, parce que il est toujours là à dire que il s'intéresse énormément à la Cantera, que tout ce qu'il veut, c'est voir des Madrilènes au Real Madrid. Mais bon, le Michel, c'était quand même le président de la Cantera, le directeur, pardon, de la Cantera, il sait quand même ce que ça vaut, et il l'a jamais vu au Real Madrid jouer à Valdebebas, donc là où il joue. C'est vraiment un club qui est en train de se détruire de l'intérieur. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est pour... je donne rapidement le classement. Donc le Barça déjà largement en tête, 35 points, 44 buts marqués pour 9 encaissés, donc à la fois meilleure attaque et meilleure défense. Villarreal deuxième à 6 points, 29. Ensuite, Valence et Séville à 27 points. Le Real Madrid, 5e à 26 points. L'Atlético et le Deport, 24 points. Et ensuite, en bas du classement, toujours les mêmes équipes. Donc, Athletic Bilbao, Mallorca, Espagnol, 13 points. Le Recreativo à 10 points. Et l'Osasuna, 9 points. À noter que l'Osasuna, c'est la troisième fois de la saison qu'ils mènent 3-0 et qu'ils ne sont pas fichus de gagner le match. Donc là aussi, un énorme coup de chapeau à cette équipe. Et donc la prochaine journée, bon ben malheureusement on a un classico qui phagocyte complètement l'attention des médias. C'est dommage parce qu'il y a quand même deux autres très très belles affiches. Donc l'Atlético Madrid qui reçoit le Betis Séville et Sevilla qui reçoit Villarreal. Mais donc évidemment, le match choc du week-end, ce sera donc Barça-Real.
Ok, ok, ok.
J'avais juste un truc à dire. Tu sais, je suis allé à Barcelone il y a deux semaines, là, et je suis allé voir le match, non ? Et Barça-Rétafé. Et il y a eu un partout, et il me semble que c'est le seul match que Barça a pas dû gagner sur ses deux derniers mois, et le seul match où Barça a pas dû mettre plus de 3 buts, et où seul match oui. Barça, où Messi n'a pas dû jouer.
C'est ça. Comme tu l'as dit, tu t'es fait arnaquer.
Je me suis senti rouler de chez j'ai vu un vieux but de Seydou Keita. Et...
À noter d'ailleurs et voilà. Que par rapport à ce que le Barça plutôt, ils sont sur une très belle série. Ils ont perdu leur premier match de la saison et depuis 20 matchs sans défaite.
20 matchs sans défaite.
Je pense pas que le Real Madrid et, va
briser. Je relève en regardant le classement, là, je relève un truc intéressant. Outre leur attaque supersonique, hein, parce que là ils sont sur une base de 100 buts dans la saison, plus de 100 buts. Moi, la dernière fois que j'ai vu un club d'un grand championnat mettre plus de 100 buts dans une saison. Il me semble que c'était l'Ajax Amsterdam, à l'époque des Litmanen et compagnie, fin des années 90. J'ai pas le souvenir avant, quoi. Je sais pas si, ça se trouve, je me trompe, hein, mais un club dans un grand chemin qui n'a plus que 100 buts, c'est rare quand même. Et là, ils sont déjà à 44 buts en 14 journées. Et 9 buts encaissés seulement, quoi. Donc, quoi, c'est pas juste, c'est pas une équipe de handball qui marque des buts, qui en encaisse autant, quoi.
Non, mais c'est exactement ça, mais c'est un peu ce que je disais, c'est que on a le Real Madrid, qui recrutent un peu n'importe comment, mais le Barça, à l'instar, c'est autre chose. Ils ont recruté devant, mais ils ont aussi recruté en défense.
Et, Piqué, j'avais trouvé intéressant, on va dire.
Il est même plus qu'intéressant, il est très très intéressant pour deux raisons, une sportive et une autre. Enfin, ça reste aussi sportive, mais que je qualifie moi d'extra sportive entre guillemets, parce que outre son énorme potentiel, il a déjà un niveau de jeu plus qu'acceptable, hein, c'est net. Il avait déjà joué à Saragosse il y a deux saisons, il était très bon. Mais en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'avec les nouvelles normes de l'UEFA, où il faut inscrire 4 joueurs formés, même si évidemment le Barça, ils n'ont pas ce souci-là, parce qu'en Xavi, Iniesta, Valdés, Puyol, c'est terminé.
Et il y a aussi, je sais pas ce que tu penses de Pedro. Je l'ai vu justement le match où j'étais voir, et j'ai trouvé... bon, il a déjà 21 ans, je crois, mais j'ai trouvé pas mal du tout, quoi.
Là aussi, j'ai trouvé, c'est un mec qui est pas mal du tout. Honnêtement, les premières fois, il m'avait pas trop, ça m'avait un peu choqué de le voir, mais mine de rien, c'est quand même un joueur qui est pas mal du tout. Et comme tu l'as dit, il peut, avec un mec comme Guardiola, et puis avec les joueurs qu'il a autour de lui, donc les Messi et compagnie. Si on est d'accord que c'est quand même plus facile de s'imposer, donc moi, avant d'être plus définitif, si tu veux, j'attendrai de voir ce qu'il va donner dans des situations un peu moins chaudes. Mm-mm. Et puis, je pense qu'il sera titulaire contre le Shakhtar, donc ça sera une bonne idée.
Ok, très bien. J'en ai fini avec mon réquisitoire sur le FC Barcelone. Merci, messieurs.
Et ben donc voilà. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, voilà qui conclut l'émission de.
On va passer au championnat de Roumanie, c'est ça?
plus sérieusement, voilà qui conclut l'émission de ce soir. Donc on avait ce soir donc Girondin 91, okay, Guy Lorient, okay. Pierrot Lunatique, Valet et GG qui nous a qui était là au début avant de sur.
Ouais gros.